Auditeurs, auditrices, bonsoir. Nous sommes le lundi 2 octobre 2023, il est 20h et comme tous les lundis à cette heure-ci, on joue la prolongation. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de votre émission sportive favorite du lundi soir, avec son générique plébiscité par tous. J'ai encore eu de très bons retours réalisés par mon ami Pierre Marcel, que je remercie. Ce soir, à mes côtés, on va commencer par
Je te laisse m'enfoncer.
Le régional de l'étape, un habitué. Voilà, on le reconnaît à son empreinte sonore. Il va nous apporter son sens de l'analyse de ce qui se passe sur et en dehors du terrain. Spécialiste incontesté du marketing sportif, ça tombe bien, il est fondateur de l'agence de marketing sportif Sportimize. Il s'agit bien sûr d'Alexandre Demeter. Salut Alex, comment vas-tu ?
Hello Sam, bonsoir à tous. Après une petite trêve, on joue la prolongation, on est de retour, donc super.
Eh ben écoute, on est ravis que tu sois de retour avec nous. Avec nous ce soir également, on va laisser... Est-ce que vous allez reconnaître l'hymne ? The Color. Blue is the color, voilà quelqu'un qui a le cœur bleu et qui en ce moment doit même avoir des bleus au cœur, vu la passe que traverse son club. Remarquez, ça pourrait être pire, hein, elle pourrait être lyonnaise par exemple. Et non. Alors elle est journaliste sportive indépendante, grande connaisseuse de basket. Si vous suivez le basket, vous reconnaîtrez peut-être sa voix. Elle commente pour le Spirou Basket. Elle est fan d'ailleurs du Spirou, j'imagine. Hein. Et elle se joint à nous, à notre tour de table pour la première fois. Et j'en suis ravi, mesdames et messieurs, Lucie Drygalski. Bonsoir Lucie, comment vas-tu ?
Bonsoir, ça va très très bien, très heureuse d'être là.
Et ben, on est ravis aussi de t'avoir. Tu remarqueras qu'on a, mis une musique plutôt sympa.
Ah, j'ai envie de chanter là, hein, déjà.
Voilà, parce qu'il y a d'autres musiques, d'autres chansons chantées notamment par les supporters adverses. On connaît les supporters anglais qui sont capables des plus belles chansons de stade. Il y en a certaines qui sont un petit peu plus caustiques, je dirais, en ce moment, vu l'état dans lequel se trouve ton club de cœur. Mais ça va tourner, comme disait un grand philosophe du football, la roue tourne et elle va tourner. Alors, ce soir au programme, on va faire un tour complet de l'actualité footballistique du week-end, avec bien sûr une page spéciale consacrée à la Jupiler Pro League. On jouait aussi d'ailleurs en milieu de semaine pour rattraper les matchs des clubs européens, puisqu'il y avait eu des matchs reportés pour permettre aux clubs belges de bien se préparer pour leur entrée en Coupe d'Europe. On s'intéressera également à la Pro League, qui a vécu un week-end assez mouvementé sur pas mal de plans, que ce soit au niveau des résultats, avec la première défaite de City, et aussi au niveau d'une décision arbitrale qui a fait beaucoup parler, bien sûr la polémique qui a agité Tottenham-Liverpool. On parlera marketing sportif au cours de la Minute Sportimize. Alors Alex, un petit teaser de ce dont on va parler tout à l'heure.
On va parler de sponsoring, mais un sponsoring particulier qui est très très long en longévité. On va pas en dire trop et on le découvrira tout de suite.
D'accord. Donc effectivement, il y a des clubs qui changent de sponsor régulièrement et d'autres qui gardent le même. Il va être donc question de cette longévité, de cette tradition du sponsor dans certains clubs. On a hâte et on parlera ensuite, bien sûr, de Coupe d'Europe, puisque c'est le retour des Coupes d'Europe, les deuxièmes journées des trois Coupes d'Europe, avec dès demain des belles affiches de Champions League et un jeudi chargé pour les clubs belges. On va commencer sans plus attendre. C'est le coup d'envoi et c'est parti. Et comme vous le savez, comme il est de tradition, désormais, on va chacun nous donner le Belge de la semaine. On va donner l'honneur à...
Honneur aux dames.
Allez, honneur aux dames.
Lucie, tu vas nous donner ton Belge de la semaine. Je rappelle que c'est un sportif, une sportive belge. Ça peut être un dirigeant, ça peut être un arbitre. Donc voilà, on a tout à fait un libre choix. Lucie, qui as-tu choisi de mettre à l'honneur ?
Eh bien, moi, j'ai pas mal hésité, j'avais pas mal d'idées, mais je me suis dit, je vais arriver chez Judaïka, ça parle beaucoup de foot, j'ai l'impression, et en tant que grande supportrice de basket que je suis, je me suis tournée plus vers le basket, et comment ne pas parler de la grande Emma Mesman, qui, jeudi passé, a joué sa 5e Supercoupe d'Europe, donc qui avait gagné l'Euroleague avec Fenerbahçe, qui là s'est retrouvée en Supercoupe d'Europe contre Lyon, et qui a fait à nouveau une performance tout simplement exceptionnelle sur le terrain. Elle a mené son équipe à la victoire très facilement, avec 50 points d'avance contre une grosse équipe de Lyon, qu'on se le dise, malgré l'absence de pas mal de joueuses qui sont encore en WNBA, comme Brianna Stewart. Et Emma Mesman, elle ne nous déçoit pas, elle ne nous déçoit jamais, j'ai l'impression, tant son palmarès est grand et impressionnant. Et pourtant, sur le terrain, même avec 40-50 points d'avance, elle continue de se battre comme si c'était une jeune joueuse de 16 ans à qui on donnait la chance en D1 belge. Donc voilà, je voulais la mettre à l'honneur cette semaine. Et pour moi, c'est clairement la Belge de la semaine, la Belge du moment, la Belge de l'année. Voilà, eh ben, c'est Emma Mesman.
Voilà, Emma Mesman, moi qui suis français, c'est un peu pour moi la Céline Dumerc du basket.
Exactement, exactement.
Eh ben, écoute,
avec un encore plus grand palmarès que Céline Dumerc, évidemment.
C'est vrai. Eh ben, très bien, on est très contents d'en avoir su un peu plus sur Emma. Et on ne parle pas effectivement que de foot, mais c'est vrai qu'on parle pas mal de foot. Alex, toi, tu as choisi de parler de qui ?
On va revenir au foot et on va parler de Lucas Stassin, donc le fils de Stéphane Stassin qui a joué à Anderlecht il y a 25 ans, qui a joué à Mönchengladbach aussi, du côté de l'Union. Et son fils Lucas a été formé à Anderlecht et il a pris la décision cet été de partir. Et il a été à Westerlo qui a fait 3-3 à Genk ce week-end. Et notre jeune Lucas, il a quand même 2 buts et 1 passe décisive sur son nom. C'est sa plus grosse prestation pour l'instant, mais ce n'est pas ses débuts, parce qu'il a quand même déjà joué 9 matchs, 4 buts, 1 passe décisive. Westerlo est bon dernier avec 2 points. Et donc, pour moi, c'est le joueur belge de la semaine. C'est un joueur qui a eu le courage, justement, de fermer la porte d'Anderlecht pour aller se relancer dans une plus petite équipe. Enfin, quoique Westerlo a terminé devant Anderlecht en fin de saison dernière. Coucou Henri. Et il a quand même fait le pas. Il est quand même parti en campine. Et force est de constater, Westerlo a raté son début de saison, mais lui, il a réussi.
Eh ben, bravo. Le courage de se remettre en question, de savoir partir et de savoir partir loin. En ce qui me concerne, j'ai hésité et du coup, j'ai pas choisi, j'ai pris les deux. Il y a le côté positif et le côté négatif. On va commencer par le positif. J'ai envie de mettre un coup de projecteur sur un autre joueur qui anime ce début de saison. Je vais refaire un coucou à Henri parce que là, c'est du côté d'Anderlecht. C'est Théo Léoni, le jeune joueur d'Anderlecht qui réussit lui aussi un excellent début de saison, à l'image d'ailleurs de son club. 1 but, 5 passes décisives en 9 journées. Il en a distribué 2 hier. Alors la saison passée, il avait fait 6 petites apparitions en équipe première, mais il avait été brillant avec les jeunes, dont il était d'ailleurs le capitaine. Et il profite de l'excellent début de saison d'Anderlecht et de la confiance que semble lui accorder son entraîneur Brian Riemer. Bravo à lui, il a été titulaire 8 fois sur 9 et le seul match où il n'a pas été titulaire, c'était la première journée et la défaite d'Anderlecht. Donc il a peut-être un petit côté talisman. Théo Léoni, un joueur à suivre. Et puis le côté négatif, on parlait de joueurs qui partent pour chercher autre chose, pour chercher du temps de jeu en ce qui concerne Stéphane Stassin. Pour chercher de l'argent, sans doute, plutôt.
Lucas.
Pour chercher autre chose, et sans doute, on le sait, de l'argent pour Yannick Carrasco. Yannick Carrasco, c'est bien de partir, c'est bien de faire ses choix, mais c'est dommage de tomber dans le ridicule. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo. Il a été la risée de tout le monde en Arabie Saoudite et un peu au-delà. Il a fait une simulation grotesque. Il était à la course avec un défenseur qui a très bien protégé son ballon. Il l'a un petit peu poussé alors qu'ils étaient en dehors des limites du terrain. Le défenseur lui a envoyé le ballon, mais alors vraiment tout doucement. il l'a pris dans la poitrine et il s'est effondré. On aurait dit qu'on lui avait tiré une balle dans le dos. Ben voilà, un petit côté ridicule. Salut Yannick Carrasco, ça reste un très bon joueur. Mais voilà, je voulais mettre un petit tacle, moi aussi, à Yannick Carrasco. Mais surtout, Théo Léoni, c'était mon choix premier de cette semaine.
Compréhensible.
Ouais, un joueur à suivre. Je parlais de Théo Léoni et donc de la Première Ligue. De la Première Ligue, je dis pas du tout. Je vais dire Pro Ligue. Parce que pareil. On a joué la 9e journée ce week-end, mais avant cela, on a rattrapé les matchs qui avaient été décalés. Donc, c'était les matchs de la 5e journée qui avaient été décalés pour permettre au club belge de préparer au mieux leur entrée dans les diverses coupes d'Europe. Et en milieu de semaine, on a eu un Antwerp La Gantoise 0-0, le club de Bruges Genk 1 partout, et puis le RWDM contre l'Union Saint-Gilloise. Victoire 2-3 des unionistes, avec dans ce derby, le derby de
La Zouanze.
La Zouanze, exactement. C'est pas à toi que je vais l'apprendre. C'était juste pour entendre.
Non, vu que c'est moi qui avais lancé le terme en 2017 quand j'étais à l'Union. On avait un match amical justement entre les deux équipes. Le premier entre le nouveau RWDM et l'Union qui était dans le foot pro. Et donc c'était le derby de La Zouanze. On avait relancé ça à ce moment-là avec les collègues du RWDM.
Écoute, je t'ai posé la question pour avoir la prononciation exacte, donc merci.
Tu as toute l'historique.
Et un derby de la Zouanze remporté par l'Union dans les tout derniers instants de la partie grâce à un but de Loïc Lapoussin, 96e minute. Les unionistes nous ont refait le coup, début en toute fin de match. C'est des spécialistes, ils ne perdent jamais pied, ils s'accrochent toujours. Et il y a vraiment quelque chose de particulier avec eux dans les derniers instants des matchs. Et on peut dire qu'ils lancent très très bien leur saison. Enfin, après ce match-là, ils avaient disputé 8 matchs. Ils ont joué le 9e ce week-end. Et on va commencer d'ailleurs par ce match qui opposait à domicile l'Union Saint-Gilloise à Charleroi. C'était le retour de Felice Mazzu. Victoire de l'Union 3-1 avec une masterclass des unionistes sur coup de pied arrêté, une vraie force et un Puertas royal, auteur de 3 assists. Ils enchaînent vraiment bien dans ce début de championnat, les unionistes. C'est un peu la même histoire que les saisons précédentes. On se dit qu'il y a un moment où tout ça va s'arrêter. Pour l'instant, ça ne s'arrête pas. Quelles sont vos impressions sur ce match déjà des unionistes et sur leur début de saison, Alex?
Déjà sur ce match, quand tu prends 3 buts sur phase arrêtée, c'est que t'as mal défendu. Donc c'est 3 erreurs de Charleroi, et certainement celle avant la mi-temps. Ils se croyaient trop beaux, ils ont marqué le 1-2 qui a été annulé de quelques millimètres par la VAR, et après c'est la foire. Et l'Union en profite très intelligemment, et comme je l'ai toujours dit aussi, c'est... Et pas que pour l'Union, mais l'Union a envie. Il y a cette culture de la gagne qui avait été instaurée par Felice, qui a été perdurée par Carole Gerhardt, qui est reprise maintenant par Alexander Blessin. Il y a cette culture, cette envie aussi par le capitaine Anthony Maurice, qui continue en fait à vivre. Et ça, le club de Bruges pourrait s'en inspirer. Et c'est pas le seul club en Europe qui a des soucis. On en parlait hors antenne en préparant l'émission. Il y a plein de clubs qui ont un début de saison raté, mais ils n'ont pas envie non plus de le réussir. Et ça, l'Union montre justement qu'avec d'autres moyens qui sont certainement conséquents par rapport à d'autres clubs belges, mais les joueurs en soi ne sont pas de grandes stars, mais en tout cas, ils en veulent et ils gagnent.
Ouais. Lucie, quelques...
Moi, je suis de base, je suis Carolo aussi.
Oui,
j'ai grandi à Charleroi toute ma jeunesse, donc c'est vrai que c'était un petit peu pénible à regarder, on va dire, cette rencontre. Mais ouais, moi, j'ai envie de dire que l'Union sur ce match, c'était l'Union en tête. Et je pense que le jeu de mots fonctionne bien. 3 buts de la tête, 3 buts sur phase arrêtée. Que dire, moi, cette équipe, comme disait Alex, il y a une aura de gagne qui ouais. ressort de cette équipe. Et c'est intéressant à regarder, mais je trouve qu'ils jouent un peu par phase pour l'instant, l'Union, avec des vraies phases positives où ils savent, pendant quelques minutes, sortir du jeu vraiment qui est la raison pour laquelle ils sont en tête actuellement. Et puis, il y a des phases où on retrouve une équipe qui est dépassée et qui perd pied. Et c'est dans ces moments-là que notamment Charleroi est venu mettre ce but. Après, est-ce que je suis d'accord avec le résultat final ? Je ne pense pas. Moi, je trouve que, au contraire, Charleroi fait un bon début de saison et n'est pas récompensé sur les résultats. Mais voilà, c'est la loi du sport, c'est la loi du football et, ouais. Et là, l'Union a été plus fort.
Ouais, parce que pour rebondir sur ce que dit Lucie, tu as à l'Union, tu as ce passage à vide, tu l'as eu contre le RVDM aussi, et là, ça a été payé cash, ils sont revenus à 2-2, et à un moment, tu as un ballon aussi sur la latte. Donc, tu, d'un côté, tu as ce moment off presque, mais ça ne porte pas nécessairement à conséquence. Et Bruges a, par exemple, des moments off, et là, c'est tu payes cash.
On va en parler de Bruges. Il a envie. Hein, de...
Mais c'est scandaleux ce qui se passe là-bas.
Un instant. Mais oui, je suis assez d'accord. Oui, l'Union a fait un match. Je regardais les statistiques. Ils ont... La possession a été largement en faveur de Charleroi. Par contre, au niveau des tirs, 17 tirs à 4, c'est un petit peu c'est ça. Ils ont subi, ils avaient pas, mais ils sont ressortis, ils ont fait de belles sorties de balles. C'est vrai que l'équipe a beaucoup évolué finalement. L'esprit est là, mais quand je regarde le 11, hier, à part Maurice et Burgess, il n'y avait pas grand monde qui était là il y a 2-3 saisons. Et pourtant, l'esprit demeure. Alors peut-être que le coach avait en tête aussi le match qui les attend en milieu de semaine. On en parlera tout à l'heure, mais ils ont un très très gros déplacement à venir. Mais en tout cas, ils poursuivent vraiment sur leur lancée. Et donc, ils sont maintenant en tête du championnat. Parce que maintenant, toutes les équipes ont joué 9 fois. Ils sont en tête à égalité de points et à même différence de but que la Gantoise, mais voilà, ils trônent en tête. 6 victoires, 1 nul et 2 défaites. Chapeau encore à l'Union qui donne du plaisir à voir quasiment toutes les semaines.
Pas toujours. Le plaisir, mais... ça dépend pour qui.
Oui, hein. C'est ça, voilà. Il faut être du bon côté du manche.
Les 5 dernières minutes de la saison dernière, il n'y a pas beaucoup de plaisir non plus pour eux.
Non, ouais, ils ont
c'était aussi de la tête, mais c'était différent.
C'était autre chose. Je vous propose qu'on passe à Eupen Anderlecht, un club qui n'est pas concerné par les Coupes d'Europe et qui donc va pouvoir se concentrer sur le championnat. Une victoire des Mauves, mais un match qui laisse une impression curieuse. Moi, ils m'ont semblé assez fébriles. Il y a des moments où voilà, ils l'emportent 1-3, c'est bien. Mais si les germanophones avaient été un peu plus lucides devant le but, jamais ça fait 1-3 et ils peuvent être à... Enfin, il y a une balle où ils se retrouvent seul devant Schmeichel et il la met au-dessus. D'ailleurs, Schmeichel, il a eu beaucoup de ballons qui sont passés à côté. Il n'a pas fait d'énormes arrêts. Mais voilà, mon milieu de terrain, moi, que j'ai trouvé assez convaincant du côté d'Anderlecht. On l'a dit, il y avait Théo Léoni, il y a Ritz aussi qui s'intègre bien dans cette équipe. Qu'est-ce que vous avez pensé? Dreyer aussi qui avait marqué. Voilà, ils ont marqué au tout début, 28, après 28 secondes. Ça lance forcément bien le match. Mais voilà, ils auraient pu. L'impression est assez mitigée pour moi.
Anderlecht joue mal, mais Anderlecht prend des points. Donc la question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui se passera quand ils joueront bien?
Et à la différence des autres grosses équipes, en tout cas celles qui sont en tête du championnat, ils n'ont pas de Coupe d'Europe, au moins jusqu'en décembre. En tout cas, ça jouera jusqu'en décembre. Après,
après, on a vu avec Genk l'année passée que c'est pas un gage, même si tu prends une grande avance, ce qui n'est pas le cas, ce n'est pas un gage d'être champion. Donc,
Ouais, bah moi, j'ai regardé le match avec beaucoup de passion et un petit peu d'énervement, parce que c'est vrai qu'ils mettent un goal après 28 secondes, on se dit oh là là, ça va être la douille pour Eupen. Je pensais vraiment qu'ils allaient enchaîner avec 2-3 buts derrière. Et puis, bah, ils ont 10 minutes de bien. Et puis, franchement, Eupen fait le travail, revient bien. Moi, j'ai été vraiment satisfaite par le travail de Nou devant, qui va d'ailleurs mettre ce goal qui rate des choses qu'il n'est pas censé rater à ce niveau-là. Mais je ne pense pas que Eupen a démérité sur ce match. Après, je ne suis pas hyper d'accord avec le fait qu'Anderlecht joue mal. Je pense qu'ils ont un problème collectif, mais individuellement, ils ont vraiment de belles choses. Vasquez est vraiment un vrai avantage pour Anderlecht. Moi, j'adore ce joueur. J'adore le regarder. Théo Léoni, pareil, c'est vraiment ma révélation de cette saison-ci, Théo Léoni. Que ce soit par ses assists que tu énumérais juste avant, ou tout simplement par son jeu technique. J'ai pas de nom en tête qui me viennent là maintenant, mais j'ai pas l'impression qu'on ait beaucoup de joueurs comme ça en Jupiler Pro League. Et donc j'ai hâte de voir la suite de cette saison. J'ai hâte de voir la suite avec Anderlecht. J'ai hâte de voir Hazard, comment il va se développer aussi avec Anderlecht.
Alors justement, ouais, Hazard, comment est-ce que vous jugez l'intégration de Thorgan Hazard ?
Une très belle présentation sur le toit du stade.
Non, je pense qu'il a encore beaucoup de choses à montrer et que là, pour l'instant, il se cherche encore. Il doit reprendre du temps de jeu, reprendre du rythme, mais c'est une personnalité qui fait peur aux équipes adverses aussi. Et ça, c'est pas négligeable. Un peu comme Schmeichel, c'est des personnalités qui viennent faire peur, mais qui, pour l'instant, n'ont pas encore vraiment prouvé ce qu'ils valaient vraiment.
Après, attention, Eupen, comme tu dis, ils jouent très très bien. Il y a eu des matchs qui sont passés complètement au travers, mais ils ont pas mal de points. Ils ont déjà récolté pas mal de points. Et c'est la même chose pour Malines.
Ouais.
Le cercle de Bruges, ce sont des équipes qui ont vite pris des points, qui se sont éloignées de la zone dangereuse, et cette zone devient justement dangereuse pour des équipes qu'on ne s'y attend pas, comme Charleroi, même Courtrai et OHL. Courtrai, bon, l'été n'était pas de tout repos chez eux, donc tu t'attends qu'ils sont dans le flop 4, mais OHL, Charleroi, pas du tout, et même le Standard n'est pas très très loin non plus. Donc,
ouais, on a eu une grosse coupure ici à Judaïca, et c'est vrai que Eupen, je crois que la dernière émission qu'on avait faite, ils étaient bien plus haut, mais là c'est vrai qu'ils ont 4 défaites de rang maintenant, mais comme tu le dis, ils ont déjà engrangé 10 points on se souvient que la saison passée avait été compliquée, donc c'est déjà bien d'engranger les points. On rappelle, oui, qu'il y a 4 équipes qui seront menacées cette saison, et donc il vaut mieux prendre les points au plus vite pour s'éloigner de cette menace de relégation. Ouais, on va voir ce qu'Anderlecht va pouvoir produire dans la suite du championnat. Comptablement, c'est une bonne chose. Il restait sur 3 matchs nuls. Donc, on le sait, quand les autres gagnent, bah, vous perdez forcément du terrain. Donc là, ils sont à 18 points, 3e du championnat. C'est bien, ils vont pouvoir maintenant regarder les autres jouer. Sans doute avec un petit pincement au cœur au milieu de semaine, et se préparer pour la semaine prochaine. Allez, Alex, t'en avais envie. Parlons maintenant du club de Bruges. Les Brugeois qui ont donc partagé un partout face à Saint-Trond. Skovolsen a marqué. Et puis ils se sont fait rejoindre, but de Koïta à la 66e. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire sur cette équipe qui évolue pas trop, en fait?
Leur maladie chronique est de retour. Et ça fait 3 ans qu'il y a cette suffisance dans le jeu. Et là, tu pensais en début de saison qu'elle était partie, parce que tu as eu de bons résultats, tu as eu une équipe qui se battait, tu as eu une équipe qui avait envie, qui l'a prouvé, que ce soit en Coupe d'Europe ou en championnat. Et depuis ce match, retour face à Osasuna, où Bruges était mené 0-2 et donc virtuellement éliminé de toute Coupe d'Europe cette année, en un éclair de génie, ils sont revenus à 2-2. Ils sont qualifiés et depuis lors, tu sais, cette maladie chronique mentale est de retour. C'est cette suffisance en se disant « Oh, tout se passera bien et on jouera quand on aura envie ». Et ça fait 4 matchs d'affilée que c'est 1-1. Et même avant ça, contre Beşiktaş, cette équipe, tu dois les battre 3-4-0, en fait. Et tu prends un bête but à la fin. STVV hier, c'est pareil. Genk, tu te dis, c'est la mi-temps, ils ne vont plus rien faire. Bah, ils te mettent un but juste avant aussi et tu dois cravacher pour revenir. Et Anderlecht était faible contre Bruges. Et Bruges n'a rien montré de toute la première mi-temps.
Lucie,
Moi, je trouve que Bruges a un peu changé d'esprit par rapport aux années précédentes. Avant, le club de Bruges, c'était une vraie porte ouverte à l'Europe. C'était un vrai moyen pour les joueurs, notamment belges, de se montrer à l'Europe et d'espérer être signé dans des plus grands clubs derrière. J'ai l'impression que cette année, dans les joueurs, on a moins cette envie de justement se montrer, à part Skovolsen qui est aussi un très bon joueur et qui fait un très bon début de saison. Mais à part lui, je ne vois pas de joueur qui apporte cette fraîcheur et cette envie, cet esprit combatif qu'on avait avant au club de Bruges. Et voilà, moi c'est... Ouais, après, Alex a un peu tout dit, peu décevant ce début de saison.
Mais disons que tu as des joueurs qui doivent se montrer, qui veulent se montrer et qui ont le potentiel pour aller à un échelon plus haut. Je pense à Meyer qui est blessé, qui revient. Je pense à Jutgla, lui, c'est retourné en Espagne. Après, de Mallorca à Vigo, il sera content partout où il ira. Et tu as quelques jeunes qui arrivent aussi, mais cette culture, cet ADN de Bruges n'est pas présent pour l'instant. Et même il y a quelques années, c'était inconcevable pour un joueur que tu sois mené ou que tu sois à égalité face à tout le respect à Saint-Tron à domicile.
À domicile, ouais.
Enfin, on en parlait hier justement parce que j'y étais. De mon temps, Bruges, Saint-Tron, si Bruges n'en mettait pas 4-5, c'était un mauvais match.
Ouais. Est-ce que Van Aken est un bon capitaine? Ça, c'est la question aussi.
Est-ce qu'il a pas fait
Van Aken, il a retrouvé son troisième souffle hein, cette année. Donc, je ne peux pas le critiquer, même si j'aime ça. Je ne peux pas le critiquer pour l'instant, mais Van Aken, pour moi, est un des symptômes de ce problème à Bruges. C'est que tout passe par lui aussi et passé par Lange l'année passée. Et pour moi, une fois que Van Aken partira du club, tu pourras trouver une autre animation offensive et le jeu sera moins lent. Enfin,
ouais.
Van Aken, c'est avec tout le respect, mais quand il doit se tourner, on dirait un tracteur dans un magasin.
C'est ça, il a son...
Il manœuvre pendant 10 minutes, il perd pas le ballon, et encore une chance, mais
ouais,
le temps de se tourner autour de lui-même
le plus rapide, le plus vif. Il y avait aussi
un coéquipier.
Il me semble une colonne vertébrale, ou en tout cas un milieu de terrain, quand il y avait Ritz, Vormer... qui était pendant quelques... Déjà plus la saison passée, mais ça donnait...
Ritz ralentissait plus le jeu qu'autre chose.
Mais là, voilà, il y a des changements de... Kasper Nielsen, qui a été blessé, qui a du mal à trouver le niveau qu'il avait à l'Union. Il est utilisé avec parcimonie, on va dire, par son entraîneur. C'est vrai que les...
Kasper est un excellent joueur, c'est un guerrier, mais Kasper a besoin d'une osmose positive. Et là, il va se surpasser. Et ce n'est pas le cas pour l'instant à Bruges. Alors, est-ce que c'est la faute de Kasper ou la faute de Bruges? On peut poser la question sans y répondre, mais ce n'est pas le Kasper qu'on connaît, qu'on voit actuellement. Ni sa passe pourrie contre Beşiktaş, ni hier quand il rate son interception de la tête. Enfin, et tu le sens à ce genre de phase aussi. Kasper rate son intervention de la tête, le ballon arrive par hasard chez un Trudoner qui trouve son coéquipier, qui tire n'importe comment et la balle est déviée par Odoi et finit au fond. T'as quand même un concours de circonstances assez gros, mais ça prouve justement cette malchance et Bruges doit se tourner et se rebiffer. A commencé jeudi à Bodø/Glimt au nord de la Norvège.
Ouais, ça va être du boulot. Passons maintenant à un match qui a été assez prolifique. Tu parlais d'un des grands animateurs de ce match, Lucas Tassin. C'était Genk contre Westerlo. 3-3. Cette équipe de Genk, elle marche, j'ai l'impression, sur courant un peu alternatif. Ils ont été pénalisés d'un carton rouge en fin de première mi-temps.
À juste titre.
Mais donc ils ont joué la deuxième forcément à 10 contre 11, ce qui ne les a pas empêchés d'ailleurs de remarquer dès le retour des vestiaires. Mais voilà, c'est une équipe qui est vraiment, elle a des très bonnes phases, très bons moments, et puis des moments de passage à vide complet. La fin de saison passée a été assez éloquente de ce point de vue-là, et pourtant ils auraient pu être champions en plus.
Ils auraient dû, mais quand tu traverses un tel traumatisme, tu as besoin de faire un reset et tu n'as pas de reset. Tu as toujours le même staff, le même coach et la plupart des joueurs qui sont là aussi. Donc, tant que tu auras ça, malheureusement, tu ne vas pas savoir te mettre au-dessus.
Ouais.
Et ce genre de traumatisme, ça arrive des clubs pendant une saison. Je pense à Gladbach, par exemple, en début de saison, mais eux, ils ont retourné le truc à leur avantage. Ils mènent 3-0, ils se font rejoindre à 3-3, ils perdent 4-3, ils reviennent à 4-4. Tous ces moments-là sont vraiment très durs à passer au-dessus psychologiquement pour les joueurs. Et Genk, passer au-dessus de ce titre, c'est encore plus dur.
Ouais, c'était vraiment une seconde.
Mais c'est le même coach, c'est la même atmosphère,
ouais,
c'est le même vestiaire.
De...
Donc tu as cette crainte. Et ils se sont pris beaucoup de cartes rouges aussi cette saison. Je pense pas que c'est très étranger à ça.
Ouais, il y a une certaine nervosité, Lucie.
Oui, c'est sûr. Moi, je pense que Genk, c'était un peu à double tranchant. Soit on avait une équipe, justement, qui retrouvait des forces, qui retrouvait une motivation, qui avait envie de faire autre chose que cette fin de saison de l'année passée, qui avait envie d'aller chercher ce titre qu'il méritait, selon moi, l'année dernière. Mais ouais, ils ont moins dans... Je ne sais pas si c'est vraiment une question d'envie ou pas, mais je suis assez d'accord avec ce que Alex disait. C'est cette atmosphère qui est peut-être un petit peu toxique, si je peux dire ça comme ça. Qui a connu cet échec, qui a connu cette frustration. Et j'ai l'impression qu'on n'a pas tourné la page, on n'a pas fini le chapitre de l'année passée. Et on est encore un peu bloqué là-dedans.
Ouais, c'est vrai que la frustration de laisser échapper un titre comme ça, elle doit être très grande. Je vais rapprocher ça avec un club que je connais bien, le Paris Saint-Germain. Là aussi, il y a eu les séquelles de la remontada. Et on a dit pendant longtemps qu'il y avait trop de joueurs qui étaient restés, trop de joueurs qui avaient été marqués par cette correction et cette improbable défaite, élimination plutôt. Et c'est vrai que ça peut jouer ensuite psychologiquement sur les performances des joueurs dans la suite. Et tu as raison, ils n'ont rien changé ou peu changé. Et c'est pas étonnant que les choses ne s'améliorent pas, franchement. Le champion en titre, on en parle un petit peu, même si donc l'Antwerp était à Malines, 0-0. Qu'est-ce que vous pensez du début de championnat des champions, justement? Ils pointent à la 5e place, ils ont un petit peu de retard, ils ont 5 points de retard sur les deux leaders. Ils ont pris une correction face au Barça, mais c'était attendu. Enfin, en tout cas, la défaite était attendue. Ils sont dans le moyen, quoi, disons, pour le moment.
Comme attendu, comme pressenti. Déjà, l'année passée, ça ne jouait pas très bien.
Non, c'est ça,
ils avaient un certain drive et ils étaient dans leur microcosme avec un but précis, c'est d'exploser et d'être champion. Ils l'ont fait, ils ont gagné la coupe. Mieux que l'année passée, ils ne feront pas. Tu as une certaine aisance, donc, de ce côté-là. Mais après, l'année après le titre, c'est encore plus compliqué parce que tu es vraiment attendu.
Ouais.
Au tournant, et certainement à Malines, qu'ils ont battu en Super Coupe, qu'ils ont battu en finale de Coupe.
Encore plus qu'ailleurs.
La tactique Van Bommel, elle est déjouée par beaucoup de coachs maintenant aussi. Donc, et c'est comme la Gantoise, ils ont été jeudi, mercredi, et tu en parlais, ils ont fait 0-0. S'ils ont fait 0-0, c'est parce que N, il a mis deux buts devant son goal.
Ouais. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas séduit l'Antwerp par leur jeu la saison passée. C'était des bonnes reconversions, ça partait vite devant, mais ça ne créait pas grand-chose de très excitant. Et c'est vrai que quand on n'a pas de fond de jeu très bien huilé, enfin, toute proportion gardée, c'est quand ça sourit un peu moins bien, ben on ne peut pas se raccrocher à ça, justement. Et quand on est un petit peu moins précis, un peu moins rapide dans les contre-attaques, et que les autres, surtout, sont là pour vous et savent vraiment ce que vous allez faire, ben ça sourit moins. Toi, tu t'attendais à ce que l'Antwerp peine un petit peu en
Franchement, oui. Et comme tu l'expliquais, il n'y a pas de fond de jeu à Antwerp. Ça fonctionne un peu sur des phases d'exception avec des goals un peu à la Alderweireld, je vais y arriver, sur le dernier match, ouais, la saison passée. Et OK, en Belgique, ça passe. C'est très bien passé, même l'année passée. Mais on arrive face au Barça et là, on voit qu'il y a des failles à tout niveau du jeu, à tout niveau du terrain. Et ils se prennent une douille contre Barcelone et c'est juste la preuve que je pense qu'ils ont eu un peu de chance l'année passée. Ouais. Et maintenant, ils sont en train de se rendre compte que non, leur jeu n'est pas au niveau. Et en Europe, ça va être très compliqué et c'est déjà très, très compliqué.
C'est déjà très compliqué.
Après,
ouais,
je mets un gros point d'interrogation parce que Shakhtar Donetsk, aucune idée de ce que ça peut valoir.
Ouais, ils ont été.
Après Porto, on sait, c'est pas comme Bruges l'année passée qui a fait 0-4 là-bas. Ça n'arrivera jamais.
Ça n'arrivera sans doute pas.
Mais le Shakhtar reste un point d'interrogation et on a connu, en tout cas, j'ai connu des années Bruges en Ligue des Champions. Bruges gagnait ses deux matchs contre l'autre équipe la plus faible du groupe, que ce soit le Rapid de Vienne à un moment, que ce soit le Galatasaray à un autre moment, et Bruges terminait troisième. Et c'est toujours possible pour l'Antwerp. Hein, donc,
Mais Bruges avait un autre jeu que l'Antwerp pour moi.
Oui, d'accord. Mais que le Shakhtar, c'est un point d'interrogation énorme. Je ne peux pas te citer un joueur du Shakhtar.
On va terminer la page belge en parlant quand même de choses qui... Tout ce qui est rare est cher. Et lorsque le Standard l'emporte, il faut quand même en parler. On fait un petit coup à Steve. C'était la deuxième victoire seulement des Standardmen dans ce championnat. Et cela dit, ils restent sur 5 matchs sans défaite. Ils sont 12e, ils se sont extirpés un petit peu de la zone rouge, juste au-dessus de la ligne de flottaison. Ils l'ont donc emporté à OHL qui n'est pas... qui est assez séduisant, je trouve. Enfin, le OHL joue pas mal, mais ils ne font pas trop de résultats. Le Standard, on va leur tirer un petit coup de chapeau. Ça fait plaisir. C'est comme on sait que ça fait plaisir à Steve de voir son club briller. On va en parler un petit peu.
Mais le vrai test, c'est la semaine prochaine, c'est face à Bruges.
Face à Bruges. On va voir ça. Quelque chose à dire du jeu de... pratiqué par le Standard sous la houlette de Oefkens. Non.
Bah, pas encore. Vu le style Oufken, je ne regarde pas, donc je ne peux pas m'exprimer à ce sujet.
Bon, et bah, écoute, toi, Lucie, le standard, tu...
Elle a dit qu'elle était Carolo.
Je suis pas, oui, c'est vrai, mais bon... Je ne suis pas une grande fan du standard, ça m'allait très bien quand ils enchaînaient les défaites, mais c'est vrai que je pense qu'ils ont fait des bons transferts sur la fin du mercato et qu'ils vont faire du bien à cette équipe liégeoise. Hâte de voir la suite de la saison.
Non, ils peuvent pas rester décemment dans les quatre derniers du championnat. Là,
si, ils peuvent rester, prendre la place de Charleroi, ça m'arrangerait beaucoup. Mais non, je pense sincèrement que là, avec les nouvelles arrivées, ils vont remonter. Ils ont eu une phase de pas bien. Et je pense qu'ils vont avoir une phase de bien ici en fin de première partie de saison. Et je ne doute pas qu'ils vont remonter dans le classement, ça, c'est sûr.
Eh ben, on leur souhaite, en tout cas, on souhaite ça au moins pour notre ami Steve Gris qui nous écoute sans doute. Voilà, on a fini avec la page belge. Je résume en tête pour l'instant. Donc l'Union Saint-Gilloise et la Gantoise, deux équipes à 19 points avec une différence de but de 6. Troisième Anderlecht, quatrième le club de Bruges, cinquième l'Antwerp et sixième Genk. Les rendez-vous de la semaine prochaine, il va y avoir effectivement un fameux standard club de Bruges et la Gantoise Genk au niveau des chocs du haut du classement. Ouais, tu as Alex, non ?
Non, j'allais dire il y a encore un choc en bas, mais tu vas certainement le mentionner.
Un choc en bas, Westerlo, Courtrai. Ouais, là, ça va être. Il s'agit de plus trop perdre de temps et de points. À Westerlo, 3 points seulement. Et cela dit, ils sont sur une bonne vague puisqu'ils ont mis un point dans chacun des deux derniers matchs. Donc, deux tiers de leurs points lors des deux derniers matchs. On ne peut pas être beaucoup plus positif.
Après, on a l'habitude de voir des matchs nuls avec des avalanches de buts. Il y a eu des 6-6, 5-5 par le passé.
C'est vrai que ça peut être... il peut tout se passer. On enchaînera tout à l'heure avec la Première Ligue. Mais je vous propose qu'on fasse un petite pause dans les résultats et qu'on donne la parole à Alex pour la Minute Sportimize. Alors Alex, tu nous disais qu'on allait parler sponsoring et partenariat au long cours. De quoi s'agit-il ?
On sait que les sponsors, c'est essentiel pour des clubs, mais j'ai envie de revenir presque 140 ans en arrière et la création de clubs. Donc il y a certains clubs, ils ont été créés par des universités ou des écoles, je pense au Standard. Il y a des clubs, c'était une paroisse, la JOCR. Il y a des clubs, c'était un café, le RC Lens. Il y a eu la sidérurgie, les armuriers en Angleterre avec Arsenal, West Ham, qui sont nés comme ça. Il y a même un club qui est né d'un syndicat minier, Thor Waters, qui est devenu le Racing Genk après. Mais il y avait aussi des entreprises B2C, donc Business to Consumer, qui ont créé des clubs. Et la semaine dernière, je voyais Saint-Etienne, qui a prolongé son sponsor historique, ouais. Qui est Casino, donc la chaîne de magasins Casino en France. Et ça fera 90 ans que Casino est sponsor de Saint-Etienne. Donc, on va revenir de nouveau en arrière. En 1919, Saint-Etienne, le club existe où joue ses premiers matchs. Le club est devenu professionnel en 1933. Et là, Casino est devenu le sponsor parce que c'est justement le fondateur de Casino qui faisait jouer ses ouvriers et ses employés pour son club. Et il voulait même, à un moment, l'appeler l'AS Casino, et donc pas Saint-Etienne. L'AS, après ASSE, Saint-Etienne, tout le monde voit le lien. Et Casino était donc sponsor. Sponsor maillot, on se souvient aussi des résultats exceptionnels en Coupe d'Europe des Stéphanois.
76,
avec le temps, Casino était un tout petit peu moins présent. Il y a eu des sponsors mythiques qui sont venus comme Dreamcast par la suite, on s'en souvient. Mais Casino est toujours resté lié au club. Et cette fois-ci, ils prolongent de nouveau ce partenariat. Ça devient un partenariat plus pour les jeunes et pour tout ce qui est développement durable à Saint-Etienne. On sait justement qu'ils sont très axés là-dessus. Et donc, Casino prolonge et ça fera 90 ans cette année qu'ils sont sponsors. Donc, c'est une longévité assez énorme. Il y a un club qui fait plus... Je le dirai après, mais avant ça, je vous ai préparé un petit quiz, justement.
On va essayer de retrouver
les clubs qui ont été créés par une entreprise.
Ok.
Donc, je vais donner la marque et vous devez me donner le club. Donc, ça, le premier va être assez facile. C'est la marque Bayer.
Je l'ai. C'est le leader actuel du championnat de la Bundesliga, le Bayer Leverkusen.
Tout à fait.
Celui-là, bon, le nom était...
Il est facile.
Celui-là, ouais, ouais. Voilà.
On a Philips.
Ah oui.
Ça, je l'ai aussi. Ouais. C'est Wolfsburg.
Non.
Non, Philips, c'est Eindhoven.
Mais oui, oui.
Voilà. PSV Eindhoven.
Le PSV Eindhoven.
Parce qu'on en parlait juste avant.
Mais oui, mais oui, mais oui.
Ah, t'as eu les réponses avant
non,
le...
Non,
ah
bon, non, non.
Mais non, pas du tout. Mais justement, on a un facile Red Bull. Le premier.
Ah.
Alors, le premier, est-ce que ça doit être Salzbourg?
C'est Salzbourg, en effet.
Ah, moi, j'avais Leipzig en tête.
Mmh, c'est Salzbourg, commencé, ça a commencé. Fiat.
Ouais. La vieille dame, la Juve.
Tout à fait, la famille Agnelli.
Agnelli.
On a Peugeot.
Ah ça, oui, ça je l'ai aussi. Mais ça c'est le FC Sochaux Montbéliard.
Tout à fait.
Ouais, ça c'est vrai que c'est
attention,
un peu comme...
Attention Lucie, tu...
Ah ouais, là je croule.
C'est
4-1. Là je croule. Faut que je me refasse un petit peu dans la tête, il me faut le temps moi.
C'est 4-1, il en reste 3 justement. Volkswagen.
Ah ben bah là du coup, ça, Wolfsburg.
Exactement.
Voilà. Donc voilà,
Et eux, ils ont effectivement, je crois, toujours le...
C'est ouais, toujours Volkswagen, ouais. C'est la Volkswagen Arena aussi. Et maintenant, on termine avec un de mes favoris.
Ah.
Et c'est la marque Carl Zeiss.
Ah oui.
Tu l'as ?
Je crois. Jena ?
Ouais, tout à fait.
Oh là, donc, voilà. ça je ne l'avais même... absolument pas. Hein.
Non, c'est très bas, mais voilà, le club était en D1 allemande au tout début, avec les Bayer, Leverkusen, etc. Donc,
vous avez plus d'historique que moi, ouais, hein, c'est ça ?
Tu veux dire, ne sois pas désagréable. Non, non.
c'était le petit quiz. Et dans cela, il y a le PSV. Le PSV, c'est 110 ans que Philips est le sponsor. Et je vais terminer sur une anecdote assez sympa et assez marrante au stade de Reims avec notre ami Teddy Thomas. Le stade de Reims aurait pu s'appeler l'AS Pommerie, mais c'est devenu le stade de Reims.
La marque, c'est la fameuse marque de champagne. C'est vrai que, et ben justement, je lis un bouquin actuellement sur Michel Hidalgo, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France, qui a passé 3 années à Reims. Et il racontait qu'ils avaient les causeries dans des cafés avec les exploitants du champagne. Et donc, que le champagne coulait à flot assez tôt, même dans la matinée.
Et moi, pour la petite anecdote, j'ai une ancienne Red Flames qui s'appelle Sarah Yusei, qui m'avait expliqué que le cava et tout ce qui était boisson à bulles du style était la boisson la moins calorique en termes d'alcool. Et donc, que souvent, les athlètes de haut niveau aimaient bien s'amuser avec ce type de boisson.
Eh ben, il faut, c'est un régime particulier.
Je connais un entraîneur qui consomme grappa.
Bon, tu tairas le nom. Mais en tout cas, merci pour cette minute Sportimize. On va ouvrir maintenant le dossier Premier League. Il s'est passé pas mal de choses et on va commencer par Tottenham-Liverpool. Il y a eu une erreur d'arbitrage. Et les erreurs d'arbitrage, ça arrive, ça arrivait.
Plus en Belgique qu'en Premier League, mais oui.
Voilà. Ce qui est plus gênant, c'est quand c'est pas l'arbitre de terrain qui se trompe, c'est quand c'est la VAR qui se trompe. Et ce qui est encore plus gênant, c'est quand les explications, ou en tout cas ce qu'on nous donne à voir, ne permet pas d'être tout à fait clair. Pour revenir au jeu, on est à la 34e minute de ce match. Luis Diaz est lancé en profondeur par Salah. Il inscrit un but fort joli d'ailleurs, un but qui est immédiatement refusé par l'arbitre de touche, l'assistant, pour hors-jeu. Sur le coup, c'est comme des dizaines de situations qui se passent chaque journée, c'est à la limite, on sait, on ne sait pas. Bon. Le problème, c'est que le VAR n'a pas infirmé la décision de l'arbitre, et pire encore, lorsque le ralenti est passé, on ne nous a pas montré les lignes qui permettent de déterminer si oui ou non il y a eu hors-jeu. Et là, il était couvert par un défenseur de Tottenham. Ça a fait grand bruit parce que, en plus, au cours de ce match, Liverpool a vu deux de ses joueurs exclus. Alors ça n'a aucun lien et les expulsions étaient méritées. Mais ils tenaient. Ils ont finalement été battus à la 96e minute. Pire encore, c'est un but contre son camp, mais ça c'est encore autre chose. Mais il l'avait vraiment mauvaise parce que ça aurait évidemment changé très, très sensiblement, c'est le moins qu'on puisse dire, le cours du match. Les joueurs et les dirigeants de Liverpool n'étaient pas contents, mais ils ont eu droit, et ça, c'est en tout cas, les erreurs arrivent, mais au moins je trouve que c'est pas mal qu'il y ait une réaction, une réponse. Le comité qui est responsable de l'arbitrage a réagi après la rencontre et a communiqué en disant que le but de Luis Diaz a été refusé par l'équipe d'arbitrage présente sur le terrain. C'était une erreur évidente et le but aurait dû être accordé, mais la VAR n'a pas fonctionné. Une enquête va être menée pour comprendre les circonstances de ce dysfonctionnement. Alors, ça faisait une belle jambe aux dirigeants de Liverpool, qui eux ont dit qu'il était également inacceptable que de telles défaillances aient déjà été qualifiées d'erreurs humaines significatives. Ils vous veulent des explications, ils sont bien embêtés, ça ne changera rien au résultat du match qui a été perdu 2-1. Voilà, ça arrive, mais c'est vrai que là ça a fait grand bruit. Surtout que voilà, ils ont été réduits à 9, ils ont fait un match assez héroïque, ils auraient sans doute préféré, c'est sûr, mais ils auraient sans doute pu s'en tirer mieux que ça s'ils avaient vu ce but accordé assez tôt dans le match, finalement, 34e minute. La VAR change parfois les choses en bien, et puis bah, il faut peut-être admettre aussi, malheureusement, quand de temps en temps il y a un dysfonctionnement.
Ça arrive partout. J'ai connu des matchs en Belgique où la balle était passée de 20 cm dans le but et qu'il n'a pas été accordé non plus. Donc c'est chiant, mais c'est comme ça. C'était où? Au Cercle de Bruges-Gand, je pense, il y a 2 ans, que le caméraman n'était pas en place et que donc on n'a pas pu... Où la caméra n'était pas calibrée. Enfin, il y avait de nouveau une histoire tout à fait loufoque, absurde et belge. Mais là, ça se passe en Angleterre. Donc,
Bon, ouais, en plus, il y a une résonance plus importante parce que c'est la Première Ligue. Au basket, alors c'est peut-être plus simple, je me tourne vers toi, Lucie. Au basket, on utilise l'arbitrage vidéo, les arbitres peuvent venir consulter le moniteur. Alors c'est peut-être plus franc en fait, c'est pas plus simple, mais c'est vrai qu'il y a moins d'interprétations. Le joueur a le pied sur la ligne ou pas, le ballon a quitté ses mains ou pas, la lumière s'est allumée sur l'horloge ou pas. C'est blanc ou noir. Là, c'est vrai qu'il y a parfois.
Parfois, ça laisse place à de l'interprétation aussi, hein, attention. C'est pas si binaire que ça, le basket.
Mais je pense que dans le basket, ce qui est intéressant à dire aussi, c'est que c'est souvent moins décisif, les décisions.
C'est vrai.
Quand on fait appel à la vidéo. Soit quand c'est en fin de match, là ça peut être très décisif, mais je veux dire, la VAR, on y fait souvent appel quand c'est sur des buts ou sur
vraiment
des moments très importants. Après, est-ce que moi j'ai toujours été très sceptique par rapport à la VAR de manière générale. J'aime beaucoup le système du volley et du hockey avec ces appels vidéo justement. Voilà, ici je pense que c'est une erreur de la VAR, mais c'est pas une erreur arbitrale en tant que telle. Comme tu dis, ils ont pas infirmer la décision arbitrale. Donc, à une époque où il n'y avait pas de VAR, ce serait juste passé sans bruit. C'est pas comme si la VAR était revenue, avait dit si, il y a hors-jeu. Alors, c'était juste. On a refait un match à l'ancienne avec une VAR qui a dysfonctionné. Mais...
C'est ça, ça a créé sans doute ça qui a créé la frustration. Comme on est maintenant habitué à être tout à fait sûr de la décision avec ces lignes qui sont tracées, là, il n'y avait pas les lignes et on a pu conclure. À juste titre qu'il n'était pas hors jeu. Mais
voilà. L'arbitre qui a eu beaucoup de travail aussi sur ce match, donc on ne peut pas lui en vouloir qu'il soit un petit peu fatigué. Je crois qu'il y avait plus de 10 cartons jaunes au total sur la rencontre.
C'est vrai que ça a été animé. Pas de chance pour Liverpool, mais je voudrais quand même parler d'autre chose, de Tottenham, qui fait un début de saison très très intéressant, plus que ça, grâce à celui qui est la révélation de ce début de saison, Ange Postecoglou, l'Australien né en Grèce, mais qui, avec ses parents à l'âge de 2-3 ans, est parti vivre en Australie. Ça a été un bon petit joueur. Je crois qu'il a 4 sélections en équipe d'Australie. Il est devenu entraîneur assez tôt, à 31 ans, juste après sa carrière de joueur. Il a entraîné des clubs australiens, puis des équipes de jeunes, puis la sélection nationale australienne, avec qui il a remporté exploit la Coupe d'Asie des Nations en 2015, ce qui fait que l'Australie est, pour un petit quiz, la seule nation au monde à avoir remporté 2 titres continentaux sur 2 continents différents. Et puis, il a enchaîné avec je ne sais pas si c'est le plus haut niveau, mais en tout cas, Yokohama Mariners. C'est un club qui fait partie de la Galaxy City. Et j'ai lu une interview de Pep Guardiola qui parlait de lui en disant qu'il s'était rencontré à l'époque puisqu'il faisait partie du même groupe et il avait été très élogieux à l'égard de Ange Postecoglou. Et puis après ça, il a rejoint le Celtic Glasgow avec lequel il a été champion lors des 2 saisons au cours desquelles il était assis sur le banc. Et donc à l'intersaison, il a été nommé à la tête des Spurs. Je regardais son parcours et son palmarès, il a gagné partout. partout. Il a été avec les jeunes, avec au Japon, les clubs qu'il a entraînés dès la fin des années 90. Il a été champion en Australie aussi à la fin des années 2010. Je le disais, le titre de vainqueur de Coupe d'Asie des Nations. Pour une équipe qui ne gagne jamais rien.
Enfin, il a toujours gagné quelque chose, on va dire. Il n'a pas été champion chaque année.
Non, il a toujours gagné quelque chose. Mais je veux dire, les Spurs, comme les Spurs de Tottenham sont habitués à rien gagner, ça pourrait être une bonne chose pour eux. Il prône un jeu très offensif. Il n'hésite pas à s'appuyer sur des jeunes joueurs. Et il a d'ailleurs été nommé il y a une quinzaine de jours parmi les meilleurs entraîneurs de l'année par la FIFA aux côtés de Pep Guardiola, Spalletti, Xavi Hernandez et Simone Inzaghi.
Après, attention à ce que tu dis, parce que les clubs où il a été, c'est des clubs qui jouent dans une ligue de Mickey Mouse. Donc.
C'est vrai, mais bon, tu vas me dire qui n'est pas champion avec le Celtic, c'est ça ? Mais peut-être il y a un côté porte-bonheur, ou en tout cas, faire à cheval, qui va faire que les Spurs qui gagnent jamais.
Depuis 15 ans, il faut faire fameusement son possible pour ne pas être champion avec le Celtic.
Ouais. Un petit coucou aux Glasgow Rangers.
Ils ont été une fois champions entre temps.
Oui, mais qui ont permis cela. On va rester à Londres, mais on va parler d'un club qui agite beaucoup un petit peu tout, hein, le marché des transferts, les chants des supporters adverses, les gazettes anglaises et autres. On va parler de Chelsea, puisqu'on a une supportrice du club de Chelsea. Chelsea actuellement 15e, ils ont bien sûr un match en retard puisqu'ils jouent ce soir. Ils jouent ce soir à Fulham, donc un derby londonien encore. Lucie, qu'est-ce qui arrive à Chelsea ?
Si seulement on le savait, je pense que là, on est en train de payer nos grosses erreurs des mois, des années passées. Voilà, c'est une erreur de management, selon moi. On n'aurait jamais dû virer Tourelle. C'était vraiment une balle dans le pied. Je ne comprends pas comment on a pu le virer, le mettre à la porte, tout simplement. Voilà. Boily fait pour moi du travail, on va dire, je ne le porte pas dans mon cœur et je lui en veux de faire ça à ce club qui était sur une belle pente ascendante. Voilà, il y a eu beaucoup de départs aussi l'année passée de joueurs cadres, même plus que cadres. Quand je vois cette année qui restent, à part Reece James, Gallagher, qui sont des joueurs du club, on ne peut pas se permettre de laisser partir un Azpilicueta, de laisser partir un Havertz, même si voilà, il y a eu des choses qui ont été dites. Mason Mount, qui était aussi un gars du club, qui est parti. C'est vrai que son niveau n'était plus le même, mais voilà, pour moi, je pense qu'il y a eu des grosses erreurs. On a fait confiance à des jeunes joueurs en se disant « Ah, c'est l'avenir, c'est les nouveaux... » J'ai entendu plein de fois « C'est les nouveaux Hazard, c'est le nouveau Drogba. » Et en fait, ces joueurs-là ne montrent rien sur le terrain pour l'instant. Je pense que vraiment, il y a des problèmes en dehors du terrain. On n'est peut-être pas au courant de tout, parce que c'est vrai qu'il y a du talent et on espère qu'ils vont créer un jeu collectif qui fait qu'ils vont sortir de cette phase noire. Et nous, on préfère voir la vie en bleu qu'en noir. Donc
Il y a quand même deux choses sur lesquelles il faut rebondir. Ted Brulli a dû acheter Chelsea. Parce qu'Abramovic a dû vendre Chelsea. Sinon, je ne pense pas qu'on en serait là non plus avec les Blues.
Non, c'est sûr, mais je pense que Boily a quand même aurait pu mettre un pied en retrait si vraiment il avait été obligé et qu'il ne voulait pas spécialement s'investir à ce point-là dans ce club.
Il a voulu investir et il a...
Quand tu dis il a dû, c'est-à-dire qu'Abramovic a été obligé de vendre, oui, mais voilà. Lui, il était content sans doute d'avoir l'opportunité. Parce que
il a eu l'opportunité.
Il possède des franchises
Mais disons qu'il
aux
a, il a un imbroglio avec la FIFA également pour l'instant sur la Coupe du Monde 2026. Avec le stade des Raiders de Las Vegas, qui lui appartient aussi, ou qu'il a en tout cas un actionnaire majoritaire. Et là, il a un problème avec la FIFA pour l'instant, parce qu'il ne veut pas céder son stade au tarif de la FIFA, il y a un tas de problèmes. Il faut savoir que dans le cahier des charges, pour organiser une Coupe du Monde et certains matchs, il y a tout ce qui est municipal, avec les villes d'organisation, mais il y a aussi avec les clubs résidents et avec l'infrastructure, que la FIFA exige certaines choses et que lui ne veut pas changer. Toujours est-il, on n'a pas mis un fusil sur la tempe pour racheter le club. Il a voulu racheter le club. Il a investi directement trop d'argent peut-être dans le club. Et là, il veut le récupérer d'une manière ou d'une autre aussi.
Ouais, mais après, les dépenses ont été pour moi, la question, incroyables.
Mais justement, c'est ça, faire confiance aux jeunes. Je ne suis pas tout à fait d'accord ni avec ce qui se dit, ni avec ce qui se fait. Parce que finalement, quand tu veux faire confiance aux jeunes, c'est des jeunes que tu as toi-même créés, que tu as toi-même formés pour les revendre avec une plus-value après. Quand tu vas aller acheter des joueurs 120 millions comme Enzo Fernandez qui sert son jeune ou des qu'est-ce qu'il y a avec Cubela,
Mudrik, Cécedo, Malo Gusto,
Zazie. Mais oui, ça, on est sur 500 millions, rien qu'avec les noms qu'on a cités, on en a cité 6.
Il n'y a pas un très grand joueur là-dedans.
Mais même si tu as un joueur là-dedans qui devient le nouveau Hazard et que tu réussis à vendre sur un malentendu au Real Madrid 150 millions, tu n'es toujours pas briqué. Qui veulent dans ton histoire. Non. Donc, quoi qu'il arrive, avec le recrutement réalisé sur des jeunes joueurs talentueux, certes, mais beaucoup trop chers, pour moi, le business model, il est foireux, mais au possible. Et en plus, ils perdent. Alors là, c'est doublement dramatique. Ouais. Parce que tu vas jouer 5 Ligues des Champions d'affilée, à la rigueur, tu as retouché un peu ton argent.
Ouais, mais si tu. Mais c'est pas du tout le cas. On le sait en Belgique, si tu es. Et peut-être encore, a fortiori en Angleterre, plus tu.
Oui.
Non, en Belgique, je veux dire.
En Belgique, l'Antwerp, ils vont gagner 24 millions avec leur Ligue des Champions. Ouais. Et c'est pour eux, c'est magnifique, c'est exceptionnel. Manchester City, ils ont gagné 132 millions de mémoire sur leur parcours l'année
et
passée.
De nombreuses saisons passées loin de l'Europe, ça peut coûter
très
cher.
Je pense que ce qui se manque. Ce qui manque ici clairement dans cette équipe de Chelsea, je dis pas, il y a beaucoup de jeunes joueurs qui on espère vont évoluer ensemble et vont, c'est des contrats de très longue durée qui ont été signés, donc on espère qu'ils vont évoluer ensemble, qu'ils vont créer un collectif intéressant, mais il y a un gros manque de leadership dans cette équipe. On avait une équipe qui a gagné la Champions League en 2012 avec des Drogba, qui ont donné ce leadership à Azpilicueta qui a suivi, il y a eu Hazard qui est arrivé qui avait un gros leadership également. Ici cette année on se retrouve sans personne. Ok, Rhys James, qui est le nouveau capitaine, mais déjà, quand il n'est pas blessé, ça fait du bien. Mais ok, il a gagné la Champions League, mais pour moi, il est encore trop jeune. Il n'y a plus un joueur qui vraiment apporte cet esprit de rassemblement, cet esprit de cohésion. Et j'espère vraiment qu'il y a un de ces joueurs-là qui va sortir du lot. Je n'ai pas compris pourquoi on n'avait pas mis Thiago Silva capitaine qui a cette aura de leadership également. Voilà, on préfère mettre un Chilwell ou un Gallagher à la place de Rhys James quand il est absent. C'est une grosse question
là,
aussi.
Je regarde la composition qui est annoncée pour ce soir, elle ne fait pas rêver du tout.
Sur papier, elle...
Et Cucurella, Dizazi, Colwood,
Silva. Sur papier, tu joues à FIFA avec tes meilleurs recrutés
c'est
des
ça.
Jeunes, elle fait rêver.
Ouais, c'est ça.
Enfin, Mudrik, combien ils l'ont payé ? 70 millions, 80 millions, et pour l'instant, il a...
Après, pour l'instant, le meilleur transfert pour moi qui est arrivé à Chelsea, c'est quand même Palmer qui fait un gros match la semaine passée. Donc, hâte de voir aussi ce qu'il va donner. Est-ce que ça va être notre sauveur ? Je l'espère, vraiment.
Eh bien, on te le souhaite. Comme d'habitude, on parle beaucoup, donc on n'a pas le temps de finir tout ce qu'on avait dit qu'on ferait. Petit point, allez, sur les Coupes d'Europe qui vont reprendre et avec un match qui va être sympa à regarder si vous n'êtes pas tout à fait fan, supporter d'un club en particulier. Pour moi, ça va être le Liverpool-Union Saint-Gilloise. Ils vont aller se frotter à ce qui se fait de plus... L'ambiance, elle est chaude au Stade Marien, mais là, ça va être autre chose à Anfield. À Anfield, on sait qu'ils vont avoir droit à... Voilà. On va se quitter d'ailleurs sur cette musique, sur le You Never Walk Alone. On vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine, un bon match de Coupe d'Europe. Lucie, merci beaucoup. C'était très sympa de t'avoir ici. Le studio est tout ouvert pour le studio. Et à la semaine prochaine, on fera le point justement sur les participations des clubs belges et des autres en Coupe d'Europe. Et on a encore plein de choses à se dire. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne semaine. Bye bye.